Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 13h. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Christophe Mallet et Marianne Murat pour vous accompagner au cours de cette heure. Donc en français, 1er mars, premier jour de l'automne. Ça ne réjouit pas tout le monde, mais nous on est contents. On est à l'antenne, Marianne, hein?
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Au programme aujourd'hui, on va vous parler des dernières actualités. Hein. Bien sûr, on va parler des inondations dans le Queensland et le New South Wales et de la guerre en Ukraine principalement. Christophe, vous allez ensuite présenter le journal des sports. Et en deuxième partie d'émission, vous entendrez le témoignage de Maïtena. C'est une habitante de Brisbane qui s'est réveillée hier les pieds dans l'eau. Mais on commence avec le journal. À la une de l'actualité de ce mardi 1er mars, on vous le disait, la côte est de l'Australie touchée par des inondations dramatiques, 8 personnes sont décédées, un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochaines heures. Pas de trêve en Ukraine, les pourparlers entre officiels russes et ukrainiens n'ont rien donné. Les bombardements continuent notamment à Kharkiv, deuxième ville du pays. Et la Russie justement exclue de la Coupe du Monde au Qatar en décembre prochain, décision de la FIFA. Les détails dans le journal des sports de Christophe Mallet.
Alors Marianne, on ouvre ce journal avec, vous l'avez dit en titre, les inondations qui touchent la côte est de l'Australie.
Oui, le Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud en situation d'alerte face aux pluies diluviennes, une situation de jamais vue. Il a plu presque autant en deux jours dans la ville de Brisbane que sur une année entière. Les inondations ont ravagé les paysages, inondé les maisons, fermé les écoles, sinistré les habitants. 8 personnes sont décédées, 2 encore activement recherchées par les secours. La première ministre du Queensland, Anastasia Palaszczuk, précise que la situation n'est pas sous contrôle malgré un ciel bleu ce matin.
We just heard from the mayor of Logan and of course they're now experiencing their peak at Logan. They're expecting around 200 or 300 homes to be impacted there, and once again are comparable to Tropical Cyclone Debbie in 2017.
En Nouvelle-Galles du Sud, la ville de Lismore fait partie des plus sinistrées. Des centaines de personnes ont été secourues. On a pu voir des gens se réfugier sur les toits, d'autres se déplacer en kayak. Les eaux ont tout emporté sur leur passage.
I've lost all my furniture. All my photos of my daughter being born. Everything.
Et on l'apprend à la météo qui risque encore de s'aggraver dans les prochaines heures. 20 cm de pluie pourraient tomber en moins de 6 heures cet après-midi. Le Premier ministre de l'État, Dominique Perrottet, appelle les résidents à bien suivre les conseils de sécurité.
We've seen 1,000 flood rescues so far, 6,000 calls for assistance. Today, currently, there are 26 evacuation orders in place. 26 evacuation orders affecting 40,000 people. If there is an evacuation order in place, please follow the instructions and leave. Unless it is not safe to do so, and if you are unsure, please contact the SES on 132 500.
Et sachez que si vous êtes impacté par ces inondations, eh bien une aide de 1 000 $ par adulte et 500 $ par enfant a déjà été mise en place. Tous les détails sont sur le site MyGov.
Voilà, en deuxième partie d'émission, vous entendrez d'ailleurs le témoignage de Maïtena. C'est une des habitantes de Brisbane. Elle a été contactée par notre collègue Grégory Pless. Restez donc à l'écoute de ce programme. Et au cinquième jour de la guerre en Ukraine, alors on va tenter de faire un point complet sur la situation en Europe. C'est très compliqué ce qui se passe. Et on commence avec les pourparlers entre les officiels russes et ukrainiens hier en Biélorussie, Marianne.
Oui, eh bien, un premier round de conversation entre les deux pays en guerre, mais pas de trêve annoncée. Ces négociations, il faut le dire, démarraient mal, hein, puisque pendant que les délégations ukrainiennes et russes négociaient en Biélorussie, eh bien, des bombardements visaient Kharkiv, la deuxième ville du pays. Cette attaque a fait plus d'une dizaine de morts parmi les civils. Et dans le même temps, les Nations Unies ont réuni leurs 193 membres en session extraordinaire d'urgence, avec un seul message martelé durant des heures, mettre un terme immédiat à l'invasion russe. L'ambassadeur ukrainien à l'ONU a mis en garde contre la destruction pure et simple de son pays.
If Ukraine does not survive, the United Nations will not survive. Have no illusions. If Ukraine does not survive, we cannot be surprised if democracy fails next. Now we can save Ukraine. Save the United Nations. Save democracy. And defend the values we believe in.
De son côté, la capitale Kiev résiste encore. Malgré l'entrée des troupes russes, la vie continue. Marina, 36 ans, est une habitante de la capitale. Elle a décidé de ne pas fuir. Écoutez son témoignage.
En ce moment, la ville de Kiev est déserte. Depuis 11h du matin, je n'ai pas entendu les sirènes d'alerte. Certains magasins et pharmacies ont réouvert après être fermés pendant quasiment 48 heures. Donc il y a des énormes files pour faire les courses. À 20h, il y aura le couvre-feu et on ne pourra plus sortir sauf pour se réfugier dans le métro si les alarmes anti-bombardement sont déclenchées. Personnellement, moi, le moral, ça va. Je m'occupe comme je peux. J'aide à distribuer de la nourriture dans les hôpitaux pour les soldats. Beaucoup de personnes ont quitté la ville, donc il y a beaucoup de bâtiments vides. Pour nous qui sommes restés, les premiers jours étaient très effrayants, mais au bout du cinquième jour, on commence à s'habituer malheureusement.
C'était le témoignage de Marina, une habitante de la capitale Kiev. Il faut dire aussi que la résistance ukrainienne s'organise dans des plus petites villes, notamment au centre du pays, jusque-là épargnée par l'offensive russe. Anastasia Bekio et Boris Vichit se sont rendus à Kaprovnitsky, 200 000 habitants.
Autour des villes, les barrages sont renforcés. Les tronçonneuses sont en action pour abattre des arbres. En plus des herses et des blocs de béton, des volontaires construisent des barricades avec des sacs de sable et des pneus. Des cocktails Molotov sont empilés en contrebas. Des excavatrices creusent des tranchées. Avec la multiplication des barrages sur les routes, de longues files de véhicules se forment. Les forces de l'ordre vérifient les papiers d'identité et les coffres des voitures. Le climat est à la suspicion. Les Ukrainiens redoutent des infiltrations d'espions ou de saboteurs. À l'intérieur des villes aussi, on s'organise, comme le raconte Sergueï, un habitant de Kaprovnitsky.
On a désormais une nouvelle occupation. On regarde ce qui se passe autour de nous avec une grande attention et on repère soigneusement les personnes qui éveillent des soupçons. C'est une sorte de surveillance de voisinage. On fait beaucoup plus attention, on est plus tendu et tout mouvement suspect, on le signale en appelant la police ou l'unité de défense territoriale.
Le climat se tend dans l'ensemble du pays, la résistance se prépare. Ici, dans la petite ville de Kaprovnitsky, il y a dans les rues de nombreuses voitures avec des plaques d'immatriculation des régions du Donbass et de Kharkiv, ces régions où se déroulent d'intenses combats.
Au total, pour l'heure, on dénombre plus de 100 civils tués et plusieurs centaines de blessés depuis le début de l'offensive, un chiffre communiqué par les Nations Unies qui alerte déjà que le bilan réel sera bien plus élevé. Et le président ukrainien a demandé à l'Union européenne d'intégrer sans délai, je cite, son pays pour mieux le protéger, un processus qui pourrait prendre des années à mettre en place. Je suis sûr que c'est juste, je suis sûr que c'est possible, c'est ce qu'il a déclaré dans une vidéo postée sur Internet. Et l'Union européenne qui justement s'organise pour venir en aide à l'Ukraine, en envoyant de l'argent, de l'aide humanitaire, des armes, et aussi en prenant des sanctions contre la Russie, des sanctions dont la liste s'est encore allongée ces dernières heures. Nicolas Falaise.
Ce lundi, l'Union européenne a ajouté des noms à sa liste noire de personnalités russes visées par des sanctions. Le porte-parole de Vladimir Poutine, Dimitri Peskov, six oligarques ou encore une dizaine de journalistes russes sont sanctionnés par le gel de leurs avoirs et des interdictions de séjour dans l'Union. Le président russe lui-même et son chef de la diplomatie figuraient déjà sur cette liste. Au Royaume-Uni, le gouvernement ferme l'accès des ports à tous les navires russes ou affrétés par la Russie. Et Londres promet le gel des avoirs de toutes les banques russes dans les prochains jours. La Suisse, pays neutre, a annoncé ce lundi qu'elle endossait l'intégralité des sanctions économiques décidées par l'Union européenne. Même position de la principauté de Monaco, micro-État historiquement lié à la Russie et à ses grandes fortunes. Le Canada, lui, s'apprête à interdire toute importation de pétrole russe. Enfin, l'une des mesures les plus retentissantes annoncées en ce début de semaine n'est pas venue d'un État, mais des instances sportives internationales qui bannissent la Russie, la privant notamment du Mondial 2022 de football.
Et c'était Nicolas Falaise pour RFI. À noter que la Russie était pays organisateur de la dernière Coupe du Monde. Ils ne seront donc pas présents au Qatar en novembre et décembre prochain. On y revient dans le journal des sports un peu plus tard, Marianne.
Et toujours à propos de la guerre en Ukraine, je voulais vous donner un chiffre, 500 000 en 5 jours seulement, 500 000 personnes ont fui le pays. Une situation difficile à gérer, notamment à la frontière avec la Pologne, pays voisin qui accueille le plus d'Ukrainiens. De nombreux témoignages se font entendre depuis quelques jours sur des maltraitances par des agents de sécurité ou encore sur des différences de traitement selon les nationalités. Chez les Africains notamment, qui se voient parfois refuser le passage, l'Union africaine parle de racisme. Écoutez ce témoignage, celui de Patrick, c'est un étudiant congolais qui a fui Kiev vendredi.
Je me trouve maintenant en Pologne, ça n'a pas été facile. J'ai été entré dans le train et quelqu'un est venu me prendre, il m'a jeté dehors. Et ce sont des événements qui se passent chaque jour, même maintenant si vous rentrez encore au niveau de la frontière. J'ai attendu au moins une journée et 3 heures. Normalement, on prend les femmes et les enfants. Lorsqu'ils terminent à prendre les femmes et les enfants, il y a certaines places qui restent pour toutes les autres personnes normalement. Ce genre de places-là, on les laisse toujours pour les garçons ukrainiens. Je me sens toujours blessant, choquant. Je demande vraiment au gouvernement ukrainien ainsi qu'à mon pays, je demande à ce que mon gouvernement puisse envoyer un peu une lettre afin que l'ambassade ukrainienne puisse aider un peu ces autres Congolais à rentrer chez eux.
Un autre témoignage, celui d'une Française, cette fois Clémence vit à Kiev, elle aussi. Elle n'arrive pas à quitter la capitale, elle s'en prend directement au gouvernement français à écouter.
Il n'y a pas moyen de monter dans un train. On en a essayé 4, 5, c'est pas possible. Donc on est revenu en sécurité parce que les sirènes commencent à retentir. On est en colère contre le gouvernement français qui nous a dit de patienter et de rester à l'abri à Kiev, de ne pas fuir parce que c'était dangereux et qui aujourd'hui nous laisse tomber. Et nous dit clairement qu'il n'y aura pas de rapatriement et nous dit clairement que c'est à nous de nous débrouiller. Il n'y a pas de bus, on n'a pas de voiture, on n'a pas de chauffeur pour nous emmener près des frontières. Là, ce soir, on essaye de garder le moral, mais franchement, on est très déçus.
Et pour ce qui est de la réaction du ministre français des Affaires étrangères, écoutez Jean-Yves Le Drian.
Nous accompagnons les Français, nos ressortissants, qui prennent la route vers la Roumanie, la Moldavie, la Hongrie, la Slovaquie, où ils seront accueillis par nos agents qui sont sur place pour assurer leur suivi dès l'arrivée sur les autres pays voisins et qui, à ce moment-là, les prendront en sécurité.
Mais ça veut dire qu'ils ont quitté Kiev, ils sont en convoi?
Certains peuvent quitter Kiev maintenant dans ces conditions-là. Nous les suivons individuellement. Nous avons des numéros de téléphone par le centre de crise ici de tous les Français qui sont en Ukraine et qui ont bien voulu nous donner leurs coordonnées. Ils sont suivis de très près. Ils ne sont pas suivis par des convois parce que ce n'est pas possible en ce moment vu le nombre. Mais cette opportunité est là et il faut essayer de la saisir.
Le président français Emmanuel Macron continue, lui, de jouer la carte de la diplomatie. Il s'est encore entretenu par téléphone hier avec Vladimir Poutine. Il exhorte le président russe à stopper son invasion. Vladimir Poutine, qui, lui, reste campé sur ses positions. Il demande la reconnaissance officielle de la Crimée comme territoire russe et l'assurance que l'Ukraine n'aura pas de place au sein de l'OTAN ni de l'Union européenne, sans quoi il ne retirera pas ses troupes. En parallèle, sachez que la Cour pénale internationale a décidé d'ouvrir une enquête. Le procureur évoque d'éventuels crimes de guerre ainsi que des crimes contre l'humanité. La veille, Vladimir Poutine avait brandi la menace nucléaire, une menace qui inquiète puisque la Russie dispose de l'un des arsenaux nucléaires les plus importants au monde.
Alors voilà ce qu'on pouvait dire au cinquième jour donc de la guerre en Ukraine, quand même pas mal d'infos là-dessus. Et dans le reste de l'actualité, ce qui a aussi un peu d'actualité ailleurs qu'en Ukraine, il y a aussi un rapport sur le climat, Marianne.
Et oui, un rapport publié par le GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Et selon ce rapport, si l'on agit de façon imminente pour la planète, eh bien, nous pouvons encore empêcher des impacts jugés catastrophiques. Ça, c'est pour le côté positif. Sinon, le rapport est assez négatif, hein, il faut l'avouer. Le rapport mentionne que certaines conséquences sont désormais inévitables, hein, même si l'on changeait catégoriquement nos comportements dès à présent. Et ce rapport mentionne également que l'Australie fait partie des pays les plus à risque, notamment les populations aborigènes. Écoutez cette analyse du docteur Morgan, il est l'un des co-auteurs.
Changing climate conditions are expected to exacerbate many of the social, economic and health inequalities faced by Aboriginal and Torres Strait Islander people. First Nations people need to play a central role in decision making that draws on their indigenous knowledge to develop culturally appropriate adaptation responses to climate change.
On passe à la météo du jour, il fera 27 degrés à Perth, 27 degrés également à Adélaïde, 26 degrés à Melbourne, 21 à Hobart, 23 à Canberra, pareil à Sydney, 31 degrés à Brisbane, comptez 35 degrés à Cairns et 32 degrés à Darwin. Le rappel des titres de ce mardi 1er mars, la côte est de l'Australie touchée par des inondations dramatiques, 8 personnes sont décédées, le bilan pourrait s'alourdir. Pas de trêve en Ukraine, les pourparlers entre officiels russes et ukrainiens n'ont rien donné. Et un nouveau rapport sur le climat publié par le GIEC, la crise s'accélère, la communauté internationale doit continuer de prendre des mesures ambitieuses. Voici ce qu'on peut y lire.
Vous aimez le programme en français ? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal des sports présenté par vous, Christophe, et vous allez nous parler de la Russie qui ne participera pas au mondial de football au Qatar en novembre et décembre prochains.
Radio SBS, les informations, les actualités et les histoires qui vous inspirent dans votre langue. Joignez-vous à la conversation sbs.com.au/french.
Journal des sports, comme promis en ce mardi. On débute eh bien, avec le football et la Coupe du Monde au Qatar qui aura lieu sur SBS et probablement sans la Russie. La Russie exclue donc de ce mondial, comme nous l'explique Christophe Jousset.
Pays d'accueil de la dernière Coupe du Monde, la Russie ne jouera pas la prochaine à la fin de l'année au Qatar. L'équipe nationale a été exclue des éliminatoires par la FIFA, organisatrice de la compétition. La Zbornaïa, le surnom de la sélection, devait jouer les barrages le 24 mars contre la Pologne, puis en cas de victoire affronter soit la Suède, soit la République tchèque. Mais dès vendredi, au lendemain du début du conflit, les trois adversaires potentiels avaient averti qu'ils refuseraient d'affronter la Russie. Une position répétée par les Polonais ce dimanche quand la FIFA est sortie de 3 jours de silence. Dans un premier temps, la Fédération internationale a décidé d'obliger la Zbornaïa à jouer sur terrain neutre, sous bannière neutre et sans hymne. Mesure insuffisante pour beaucoup. Ce lundi, le Comité international olympique, d'habitude si prudent sur le terrain politique, a recommandé à toutes les fédérations internationales de bannir les Russes et les Biélorusses de toutes les compétitions. Quelques heures plus tard, la FIFA a publié ce communiqué, co-signé avec l'UEFA, la Confédération européenne, qui a pour conséquence immédiate l'exclusion de la Russie du Mondial 2022, l'exclusion également de la Russie du championnat d'Europe féminin prévu cet été en Angleterre et aussi l'exclusion des clubs russes des compétitions européennes. Le Spartak Moscou devait jouer dans 10 jours un 8e de finale de Ligue Europa contre Leipzig.
Voilà donc la Russie exclue de ce mondial qui aura lieu donc en novembre que vous pourrez suivre en intégralité et gratuitement sur SBS bien entendu. Alors on continue sur cette question de la guerre en Ukraine qui impacte le football. Faisons un petit point sur la situation des joueurs africains en Ukraine. Une situation très compliquée. Ils sont livrés à eux-mêmes, comme nous l'explique Bouba Ndiaye.
Ils sont nombreux là-bas. J'en connais pas mal de jeunes africains sénégalais qui sont en Ukraine, un peu partout dans le monde. Et surtout, le gamin, il n'est pas professionnel. Il est dans un club amateur. Imaginez-vous comment il a fait, combien déjà il a pu sortir pour se retrouver l'argent. Je parle en termes d'argent, parce qu'il faut payer les comment ça s'appelle, moi je les appelle même pas des managers, je sais même pas comment ils font pour arnaquer ces jeunes-là et les amener. Une fois là-bas, t'es obligé de jouer. Il y en a, ils vont te dire, écoute, on va t'amener en Ukraine, c'est un club de première division, etc. On demande 2 millions, 3 millions de CFA, c'est à peu près 4 000, 5 000 euros. Une fois qu'ils ont l'argent, ils vous amènent là-bas. Ils disparaissent. Vous êtes obligé de jouer dans de petits clubs pour déjà espérer retrouver l'argent que vous avez misé avec le soi-disant manager qui vous a amené sur place. Et il y en a qui reviennent jamais, malheureusement. J'en connais plein qui sont devenus soit de petits délinquants, d'autres qui disparaissent de la carte footballistique, malheureusement. Et c'est vraiment dur.
Bouba Ndiaye, donc. Et à noter encore une fois, sur cette guerre et la situation entre la Russie et l'Ukraine, le changement de contrôle à la tête de Chelsea, qui en fait rigoler plus d'un, puisque le propriétaire du club, Abramovich, a tout simplement laissé les rênes de son club à un trust qu'il gère, Philippe Auclair.
ça ne veut rien dire, ça n'a aucune implication, aucune signification. Cette fondation est une organisation caritative. Ce que Roman Abramovitch est censé transférer à cette fondation, il utilise le mot « stewardship », qui est un mot extrêmement difficile à traduire en français. Grosso modo, il dit « je laisse à la fondation de Chelsea le soin de veiller sur les affaires du club ». Mais en fait, toute la structure reste en place. Marina Granovskaya et Bruce Buck, donc président en titre et directrice exécutive du club, restent en place. Roman Abramovitch est toujours propriétaire du club et n'a aucune intention de se séparer de ses actions. Donc en fait, retirons le conditionnel, plutôt d'une manœuvre qui est censée peut-être le protéger un peu plus tard, lorsque le gouvernement britannique voudra peut-être s'intéresser de plus près aux avoirs des oligarques alliés de Poutine qui sont basés au Royaume-Uni.
Philippe Auclair pour RFI. Allez, on va parler de football et sur le terrain cette fois-ci. Le gros match de ces derniers jours, c'était la Coupe de la Ligue en Angleterre. Finale entre Liverpool et Chelsea, instant de match.
Quel est...
Oh, il a frappé ça comme un Lucas. Numéro 10. Ouh. Il n'est pas choisi pour la séance de tir au but. Oh. Et Liverpool remporte la Coupe de la Ligue dans une soirée folle, une soirée inoubliable, une soirée irrationnelle, une soirée mémorable.
Voilà, donc un match complètement fou hein, entre Liverpool et Chelsea, un match qui s'est terminé 0-0 et donc qui a donc été au tir au but. Retour sur ce match, analyse de ce match avec l'équipe de Radio Foot.
En fait, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'à l'issue des 120 minutes de temps réglementaire plus prolongation, qu'il n'y ait pas eu de but. On se dit, mais comment ça se fait qu'il n'y ait pas eu de but dans ce match où il y a eu...
Il y a eu la VAR aussi.
Oui, il y a eu effectivement la VAR aussi, mais qui a pris bonne décision.
Ah, toujours
enfin, bonne décision, on peut discuter. Ah, est-ce qu'il est vraiment en jeu? Il est en jeu, en tout cas, la ligne est tracée comme tel. Donc au moins, voilà.
On va pas discuter trois heures là-dessus.
Absolument, il y a des montants qui ont été touchés, des gardiens qui ont été exceptionnels, Edouard Mendy d'un côté, Kevin Kelleher de l'autre. Enfin bref, il y a eu des choses, c'est un film en fait. Jusqu'au bout, Tourelle qui tente son joker Kepa Arrizabalaga, qui avait été bon en séance de tir au but. Bref, on en parlera, mais c'est un match dingue, une intensité dingue. Et alors, pardon, je regarde avec mon prisme français, parce qu'au final, ce Chelsea-Liverpool, ce sont deux équipes qui vont sans doute aller loin en Ligue des Champions. Et qui dit Ligue des Champions dit Real Madrid, PSG.
Oui, PSG plutôt. Quand
voilà. Et quand je vois ces deux clubs-là, quand je vois le PSG. Pardon, j'ai parfois l'impression qu'on n'a pas le même sport. L'intensité qui a été mise par Chelsea et Liverpool de la première à la dernière seconde, c'est une dinguerie.
Mais ça me rappelle le football anglais des années 90. C'est-à-dire, pas de calcul, tout à fond. On se libère, on lâche les amarres. Il n'y a pas quelqu'un qui était dans la gestion.
Que ce soit de
l'émotion, pas de calcul. C'est vraiment, ils nous ont fait vivre un match exceptionnel.
Voilà donc Radio Foot International et un mot également de l'entraîneur de Chelsea. Il explique son choix. Il faut savoir qu'il a décidé de changer son gardien de but à la dernière minute de la prolongation pour pouvoir avoir un gardien frais, un gardien entraîné à tirer les tirs au but. Et ça n'a pas payé. Thomas Tuchel.
Nous avons pris la décision de le faire entrer pour la séance de tir au but comme nous l'avions déjà fait la dernière fois, car Kepa s'entraîne tous les jours au pénalty avec les joueurs. Ils savent qu'il est très bon dans cet exercice. Il a simplement plus de temps sur le terrain d'entraînement pour se préparer qu'Edouard Mendy qui joue beaucoup plus. Tout le monde sait à quel point il est bon et à quel point c'est difficile de tirer. Malheureusement, il n'a pas pu faire d'arrêt. Les tirs au but ont été frappés brillamment. C'est dur, c'est vrai, d'être le gars qui a raté le seul et unique penalty. Je suis très triste pour lui, mais il n'y a aucun reproche de notre part.
Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. Voilà, ça conclut notre journal des sports pour aujourd'hui. On fait une courte pause et on retrouve Marianne dans le programme dans quelques instants. À tout de suite.
Vous écoutez le français sur Radio SPS.
C'était la chanson « Que tous dansent » chantée par Noé Préchaud. Cette chanson vient de l'album « À nous » sorti en 2021. J'espère vous avoir fait découvrir cette chanson. Je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps et depuis que je l'entends, je ne peux plus m'en passer. Elle est fabuleuse. Retour à l'actualité et on vous en parlait dans le journal. Pendant près d'une semaine, des pluies torrentielles se sont abattues dans le Queensland et le New South Wales. Ces deux États ne sont pas tirés d'affaire puisqu'il continue à y pleuvoir aujourd'hui encore. 8 personnes sont décédées, 2 autres sont activement recherchées. Et parmi les sinistrés, Maïtena, une habitante de Brisbane, elle s'est réveillée hier les pieds dans l'eau et elle a raconté son calvaire à Grégory Pless. C'est tout de suite sur SBS French.
SBS Food a tous les ingrédients pour votre prochain repas. Vous y trouverez des milliers de recettes issues des cuisines du monde. Essayez les petits plats des experts de SBS Food. Et regardez comment ils les réalisent pas à pas. sbs.com.au/food. Donnez votre opinion sur les sujets qui vous intéressent. Envoyez un SMS au 04 88 mondial 79 93 et 23 ou rejoignez notre page Facebook pour participer à la conversation et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler des inondations qui frappent actuellement le sud du Queensland, mais aussi le nord de la Nouvelle-Galles du Sud. C'est quelque chose qui malheureusement arrive régulièrement. On se souvient tous, par exemple, des inondations vraiment catastrophiques qui avaient déjà frappé cet État en 2011. 33 personnes étaient mortes à ce moment-là. Le bilan actuel pour ces inondations se chiffre, d'après les dernières données fournies par les autorités, à 8 morts. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Maïtena, qui vit à Brisbane et qui fait partie des personnes qui ont été affectées par ces inondations. Bonjour Maïtena.
Bonjour Grégory.
Alors, on en a parlé avant qu'on commence l'interview. Vous n'êtes pas parmi les personnes les plus durement touchées, mais vous n'avez pas été épargné non plus par ces pluies torrentielles depuis une semaine qui s'abattent dans la région où vous vivez.
Oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été épargnés à Brisbane. J'imagine qu'il y a une grosse partie de la population qui a dû être touchée, malheureusement, parce que la pluie a été incroyable, vraiment incroyable.
Et alors, vous me disiez, en ce moment, chez vous... faut mettre des bottes en caoutchouc, hein, c'est ça?
C'est ça. C'est un petit peu. J'ai eu une rivière privée qui s'est installée dans mon premier étage, enfin mon rez-de-chaussée, pardon. Donc j'ai effectivement quelques centimètres d'eau, ça a abîmé les plinthes, les portes, les murs. Et puis l'eau est toujours là. Donc ça s'est arrêté de pleuvoir aujourd'hui. On est content, on a vu du soleil. Mais l'eau, pour l'instant, elle est toujours là. Elle part pas en éponge, mais elle revient.
Ouais. Est-ce que cette inondation que vous subissez, est-ce que vous l'aviez prévue? Est-ce que vous aviez pris des dispositions, je ne sais pas, surélever tous vos meubles, vos équipements électroménagers, etc. Ou là, il va falloir tout nettoyer, tout remplacer
Non, on a été prévenus quand même. On savait pas jusqu'à quel point ça allait être. Bon, on est un peu habitué quand même à Brisbane, parfois des saisons des pluies un peu plus importante que d'autres, donc ça arrive parfois. La dernière en 2011 avait été très grave, notamment il y avait beaucoup de morts, mais cette fois on a été prévenu, ça a été pas mal géré, donc on a pu nous sauver les meubles, les choses importantes, c'est juste les murs, les sols, les portes qui sont affectées, quoi. Donc et puis bon, on sait jamais où ça va frapper, c'est ça le truc.
Ouais. Alors, vous le disiez, en gros, le pic de ces inondations a été atteint aujourd'hui. C'est plutôt en train de refluer, mais évidemment, il y a des dégâts très importants encore partout. Je crois que dans votre quartier, comme d'ailleurs de larges parties de la région de Brisbane, les écoles chez vous sont fermées et la plupart des routes sont pour l'instant pas praticables. Enfin, peut-être en bateau, mais pas en voiture en tout cas.
C'est ça. Donc les écoles sont effectivement fermées. Les routes sont... Il y avait encore pas mal de routes qui sont fermées. En général, le pic était ce matin vers 8h. Hein, donc, a priori, à partir de maintenant, ça devrait baisser. Et en général, ça repart aussi vite que c'est arrivé, donc ça devrait s'arranger assez vite. Après, c'est une histoire de nettoyer, faire venir les assurances, tous ces joyeux événements qu'il va falloir s'occuper dans les quelques semaines à venir.
Ouais. Alors, je crois que dans votre cas, c'est peut-être plus difficile encore parce que votre activité, elle est liée au tourisme. Donc, ces deux dernières années ont été évidemment très difficiles pour vous. On s'était déjà parlé d'ailleurs il y a quelques mois et vous nous aviez expliqué que vous aviez un peu mis votre activité entre parenthèses, que vous étiez parti travailler à plusieurs centaines de kilomètres de chez vous, à Magnetic Island entre autres. Et là, vous veniez de revenir. C'était depuis le mois de décembre que vous étiez revenu chez vous relancer votre activité. C'est un coup dur, du coup, là, quand même.
Oui, c'est le dernier petit coup derrière la tête. J'espère que c'est le dernier. J'avais mon activité dans le tourisme international qui était à l'arrêt. On a annoncé l'ouverture des frontières, donc je suis rentrée pour reprendre mon activité. Je reprends à peine pour me remettre sur les pattes et ping, petit coup derrière la tête. Mais bon, je pense qu'il y a plus grave, je reste positive, on va régler le problème et puis on va continuer, hein, on n'a que ça à faire. Et puis je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations plus compliquées. Je pense à l'Europe, ce qui se passe un peu partout dans le monde. Je ne me plains pas trop non plus, quoi.
Ben, on vous souhaite bon courage en tout cas pour la suite, parce qu'il va falloir nettoyer. Puis vous l'évoquiez aussi, des discussions un peu compliquées, j'imagine, avec les compagnies d'assurance, etc. En tout cas, ça ne va jamais aussi vite qu'on le souhaiterait.
Oui, je pense qu'on n'est pas tout seul.
Ouais. Donc, je vous souhaite vraiment bon courage et merci encore d'avoir témoigné à notre antenne.
Merci Grégory, bonne journée.
Bonne journée.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Et donnez-nous votre opinion. Téléchargez l'émission avec l'application SBS Radio. Écoutez en direct ou à la demande. Répondez à nos sondages et laissez-nous un message. Le téléchargement est gratuit dans l'App Store ou sur Google Play.
Nous sommes à 40 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Alors forcément, la campagne des candidats est fortement impactée par la guerre que la Russie vient de déclarer à l'Ukraine. Qu'en disent les candidats? Quel est leur positionnement? C'est le ZAP France en s'appuyant sur les sonores de TF1, France Télévisions et France 24. Pour commencer, vous entendrez le chef de l'État Emmanuel Macron, toujours pas officiellement candidat à sa succession.
Cette guerre durera, mais l'ensemble des crises qu'il y aura derrière auront des conséquences durables. Il nous faut donc nous y préparer avec beaucoup de détermination, avec aussi beaucoup de solidarité. Et donc je voulais tout simplement vous dire que nous serons là.
C'est tout le problème des candidats. Ils devaient déjà se battre contre un président candidat non encore déclaré. Ils doivent maintenant poursuivre une campagne devenue largement inaudible. Hugo Capelli et Alexis Tranche.
Le conflit percute de plein fouet la campagne électorale. Rassemblement de soutien aux Ukrainiens, déclarations officielles, conférences de presse improvisées. Tous ont dû bouleverser leur agenda ces dernières heures. En ligne de mire, une élection présidentielle qui passe au second plan à 44 jours du premier tour.
Moi, je reste non aligné. Je suis pour le non-alignement de la France, mais je ne suis pas pour sa neutralité. À l'inverse, je crois qu'on pourrait proposer que l'Ukraine soit neutre, de manière à ce que les deux géants, en quelque sorte, ne perdent pas la face, ni les Russes, ni les Américains.
Une campagne présidentielle bouleversée par l'invasion russe en Ukraine. À peine arrivé à l'île de la Réunion, Jean-Luc Mélenchon condamne Vladimir Poutine.
Quelles que soient les sympathies, les explications et tout ce qu'on veut, il n'est pas acceptable qu'une armée franchisse une quelconque des frontières de l'Europe.
Sa rivale socialiste Anne Hidalgo en profite pour critiquer ce qui, jusqu'ici, se montrait bienveillant envers Vladimir Poutine.
Je me réjouis que ceux à l'extrême droite ou du côté de Jean-Luc Mélenchon, qui nous expliquait encore il y a deux jours que l'agresseur était l'OTAN, en reviennent à une position qui soit une position plus conforme.
Devant l'ambassade de Russie cet après-midi, Yannick Jadot, l'écologiste, s'affiche aux côtés des manifestants pour soutenir les Ukrainiens.
Il est temps maintenant que tous les responsables politiques français soient unis et très clairs vis-à-vis de Poutine. Il y a eu trop de complaisance, trop de naïveté dans notre pays et en Europe.
À droite, Valérie Pécresse convoque en urgence la presse pour réclamer des sanctions contre Moscou.
Cette invasion appelle une réaction immédiate. Je souhaite que l'Union européenne, en coordination avec les États-Unis et le Royaume-Uni, s'accorde dans les plus brefs délais sur les sanctions les plus fermes, ciblant personnellement les responsables de cette guerre.
Marine Le Pen, qui a déjà été reçue au Kremlin, demande de son côté la fin des opérations militaires.
Marine Le Pen, elle prend ce soir ses distances avec le président russe et se garde bien de critiquer l'action du chef de l'État.
J'espère que le président Emmanuel Macron trouvera, encore une fois, sous le chapeau de l'ONU, car à mon avis c'est plus performant que sous le chapeau de l'OTAN, les moyens diplomatiques pour arriver à ce que la situation revienne à la normale.
Éric Zemmour, son rival d'extrême droite, lui emboîte le pas.
L'urgence désormais est de faire taire les armes. J'appelle solennellement le président Macron à se rendre à Moscou puis à Kiev pour proposer la médiation de la France afin d'obtenir un cessez-le-feu immédiat.
Sous la Ve République, il n'y avait jamais eu de conflit déclenché au cours d'une campagne présidentielle.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au/news.
D'écouter L'Enfer de Stromae, peut-être aviez-vous reconnu sa voix. Dans un instant, c'est l'interview de Valérie Lemercier par Grégory Pleyse. Valérie Lemercier nous présente son film Aline, son film sur Céline Dion, film qu'elle a réalisé et dans lequel elle tient le premier rôle. C'est la deuxième partie de l'interview, vous avez déjà écouté sur nos ondes la première partie. Si vous souhaitez réécouter l'interview en intégralité, vous pouvez la trouver sur notre site internet SBS French et sur toutes les plateformes de podcast. Le film Aline par Valérie Lemercier, interviewée par Grégory Pleyse, c'est tout de suite.
Votre communauté, vos conversations.
Alors, Céline Dion, vous le disiez aussi, c'est évidemment une star planétaire. Ça a d'abord été, bien sûr, au Québec, puis en France, et puis il y a eu Titanic, et d'un coup, elle était partout à la fois. Et peut-être vous connaissez sans doute beaucoup mieux son parcours que moi, mais il me semble que c'est à peu près à ce moment-là où elle est devenue vraiment une star mondiale, Las Vegas, etc., que justement les moqueries ont commencé à venir. Et d'ailleurs, je me suis rendu compte dans votre film que ça n'était pas spécifiquement franco-français. Et j'ai vu que tout récemment, vous avez reproché à Yann Barthès, qui anime l'émission Quotidien en France, d'avoir de s'être longtemps moqué de Céline Dion dans ses émissions précédentes. Vous pensez que, enfin, pourquoi vous, ça vous a affecté autant, et est-ce que vous pensez que Céline Dion a été marquée par ces moqueries?
Je pense qu'elle est au-delà de ça, mais je sais que René voulait pas qu'elle aille, et il avait bien raison, faire cette émission. Ce que je veux dire, c'est que ça a été un petit peu trop. Voilà, c'est pas... d'autres l'ont fait, il y a eu des choses plus... Mais voilà, il y avait un petit acharnement, mais qui est, c'est un peu parisien et un peu snob et un peu... Voilà, c'était de bon ton. Et je vois bien d'ailleurs sur le film, tout le monde me dit, moi j'ai beaucoup aimé le film, pourtant je la connais pas, enfin je sais pas pourquoi les gens se se sentent obligés de dire qu'ils ne la connaissent pas ou qu'ils ne l'écoutent pas ou qu'ils n'en ont jamais entendu parler, ce qui est quasiment impossible. Donc, on peut pas. Ce que je veux dire, c'est que les icônes populaires ne sont pas si. Dans le petit monde intellectuel, que ce soit au Québec, que ce soit en France, il y a quand même un peu de moquerie. Comme avec Johnny, comme avec. Ce que je veux dire, c'est que il y a toujours. Voilà, et moi, je sais pas du tout le ton. Quand je voyais ça, je me disais, mais ils en ont pas marre. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis permise, comme ils m'ont remis gentiment un prix de meilleure réalisatrice hier, ou avant-hier, je sais plus. Enfin bref, j'ai remis quand même dans le contexte ça. Et d'ailleurs, ils s'attendaient, quand ils attendaient mon film avec impatience, ils s'attendaient à ce que j'en rajoute une couche dans leur sens, ce qui n'était pas du tout. Moi, je sais que cette histoire d'amour et cette histoire de famille et cette histoire est vraie et c'est ça que je voulais remettre en place. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et Céline, elle, je sais qu'elle a déjà donné des conseils à des gens qui l'imitaient pour mieux faire. Donc, elle a suffisamment d'autodérision pour pas. C'est moins que ça. C'est plus facile de C'est plus facile de quand on n'est pas soi-même, on va dire aux gens arrêtez de vous moquer de moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi j'ai fait juste un tout petit phrase là-dessus. Voilà.
Alors, ce qui est sûr, c'est que
ça n'est pas le plus important de ce film.
Non, tout à fait. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, étant donné sa stature, on est tous, je pense, marqués par Céline Dion d'une manière ou d'une autre. Si je peux vous raconter une confidence, moi. J'ai roulé ma première galoche sur « Pour que tu m'aimes encore » pendant une boum.
Ah bah voilà.
Est-ce que vous avez un souvenir marquant lié à la musique de Céline Dion?
Ben oui, en 95, je jouais au Théâtre de Paris. Il y avait une ouvreuse qui s'appelait Zaya, qui est devenue après un personnage important de mes spectacles, qui était fan de ce disque que moi je connaissais pas. C'était marrant parce qu'elle trouvait, elle avait 20 ans cette fille, et elle trouvait qu'il y avait que je lui ressemblais, je sais pas pourquoi. Elle aimait beaucoup Céline et puis elle m'aimait bien aussi. Je jouais là tous les soirs et voilà. Donc elle faisait des chansons où elle changeait les paroles. C'est les chansons de Céline. Elle mettait Valou à la place, qui était comme ça qu'elle m'appelait. Enfin bon, c'était marrant. Donc c'est comme ça que j'ai connu Céline.
Est-ce que maintenant que vous avez tourné ce film, vous pourriez tourner un autre biopic? Est-ce que c'est un genre qui vous plaît? J'ai lu que, en tout cas, le tournage d'Aline, vous avez dit que c'était le moment le plus heureux de votre carrière professionnelle. Est-ce que c'est lié à Céline Dion? Est-ce que c'est lié au fait de se mettre dans la peau d'un personnage de légende comme
c'était,
ça
c'était très amusant à faire. Peut-être que c'est les forces vives de Céline, son côté tellement positif, enfin voilà, qu'elle dégage, qui faisait. Enfin, en tout cas, moi, j'avais habituellement sur les tournages, toujours. Je me dis toujours que si on avait une petite semaine de plus ou deux de préparation, on serait mieux. Là, j'avais toujours envie de bondir pour mettre dans mon costume et de jouer. C'est un rôle que j'ai aimé jouer. Voilà. J'ai aimé jouer ce personnage et je pense qu'il y avait dans l'équipe aussi, les gens étaient heureux de faire ce film, d'y être, mais que ce soit les figurants sur les concerts, que ce soit les techniciens, que ce soit les... Voilà, il y avait une espèce de joie qui ne s'explique pas, où tout le monde était content d'en être. Enfin voilà, c'était... Et ne parlons pas que de moi, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs québécois merveilleux que j'ai eu la chance de rencontrer. Je suis d'ailleurs contente qu'ils soient nommés au César la semaine prochaine. En tout cas, Daniel Fichot pour La Mère et Sylvain Marcel qui joue Guy Claude, qui est donc son mari, manager. Mais la grande chance que j'ai eue, c'est de tomber sur des acteurs exceptionnels qui sont tous québécois, que personne ne connaissait en France. Et ça n'a pas été si simple à imposer en France, où les gens veulent toujours voir les mêmes têtes. Mais moi, j'étais déterminée et c'était absolument capital que ce soit des Québécois, parce que ce n'est pas qu'une question d'accent. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand on fait des parodies de Québec. C'est toujours un truc d'accent. Lo, on fait des lo partout. Mais moi, c'est aussi un état d'esprit. quelque chose de très généreux, de très ouvert, de... C'est un état d'esprit, c'est très exotique en fait. C'est loin. Enfin, je veux dire, on parle la même langue, mais on la met pas toujours dans le même sens. Et il y a des expressions québécoises. D'ailleurs, ça n'est pas un film sur les expressions québécoises. Il n'y a pas de tabernacle, de criscaliste, toutes ces choses-là. J'ai pas mis ça dans le film, mais c'est l'état d'esprit, la famille québécoise. On voit beaucoup de scènes de cette fratrie, et voilà, ça parle aussi de l'état d'esprit. Voilà, c'est une façon d'être, et ça va au-delà de l'accent. Donc je trouvais c'est ça capital que ce soit joué par des vrais Québécois à qui j'ai demandé par contre de faire tout petit, enfin qu'on les comprenne, parce qu'en fait je crois que c'est le premier film en québécois qui n'est pas sous-titré. C'est-à-dire que nous, les films de Xavier Dolan, les films de Denis Arcand, les films québécois, on ne peut pas les comprendre, donc ils nous arrivent avec des sous-titres. Et là, je ne voulais surtout pas... Alors forcément, il faut faire des petits compromis, parce qu'il faut qu'on comprenne tout. Donc si moi, je vais au Québec, je ne comprends pas tout. Donc il y a quand même des petites choses où on ne se comprend pas. Donc il fallait qu'on parle la même langue. C'était ça qui était important, au risque de faire moi un accent petit et de demander aux acteurs québécois de franciser un petit peu leur façon de parler.
Très bien. Une dernière question, un peu la question cliché du journaliste local, mais est-ce que vous êtes déjà venu en Australie, à Sydney, et si oui, est-ce que ça vous a plu ?
Jamais, jamais. J'ai beaucoup voyagé, mais je ne suis jamais allée dans cette partie du monde, et j'aimerais bien. Et j'aimerais bien. C'est encore plus exotique, là, pour le coup. À part des photos, à part, voilà, non, je ne suis jamais venue. Mais ce serait avec joie. J'aimerais beaucoup.
Bah écoutez, les frontières rouvrent aux touristes à partir de lundi prochain, donc n'hésitez
D'accord,
pas.
D'accord, mais alors moi je suis au théâtre tous les soirs, donc je ne peux pas bouger de Paris pour l'instant, mais jusqu'au mois de mai, mais j'aimerais beaucoup. J'aurais adoré venir pour la sortie du film. Voilà.
Merci beaucoup Valérie Mercier, vraiment un grand merci d'être intervenue sur notre antenne. Je rappelle donc que votre film est sorti hier dans les salles de cinéma en Australie et qu'on peut le voir un peu partout, Aline, et on recommande...
Et c'est aussi une comédie, je tiens, voilà, parce que je crois qu'on ne souligne pas cet aspect, mais c'est aussi une comédie, voilà.
Tout à fait.
Évidemment qu'il y a les deux, quoi, il y a de la comédie et puis évidemment que c'est aussi parfois poignant. Voilà.
Tout à fait. On en a pour son argent en tout cas. Merci beaucoup encore Valérie Lemercier. Je vous souhaite une très bonne journée puisque c'est le matin chez vous et bon courage pour toutes ces représentations théâtrales à venir.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
À vivre avec ça.
C'était un extrait de « Comment est ta peine » chanté par Benjamin Biolay. Il est 13h56, l'heure du rappel des titres. La côte est de l'Australie touchée par des inondations dramatiques, 8 personnes sont décédées, un bilan qui pourrait malheureusement s'alourdir dans les prochaines heures. Pas de trêve en Ukraine, les pourparlers entre officiels russes et ukrainiens n'ont rien donné. Les bombardements continuent notamment à Kharkiv, deuxième ville du pays. Et enfin la Russie, justement, exclue de la Coupe du Monde au Qatar en décembre prochain. Décision de la FIFA, la Russie qui était le pays hôte pourtant lors de la dernière compétition. Et voilà, ça fait déjà une heure qu'on est ensemble, c'est la fin de votre édition française. Merci de nous avoir écoutés, merci de votre fidélité. Je suis Marianne Murat, aujourd'hui on a présenté ensemble avec Christophe Mallet. Nous avons été très heureux de passer cette heure ensemble et à vos côtés. Vous pouvez retrouver ce direct en intégralité sur notre site internet et notre page Facebook SBS French, ainsi que sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Le prochain programme en direct, c'est jeudi, présenté par Grégory Pless. Même fréquence, même heure. Je vous souhaite de passer une excellente journée.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.